Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Hello. Il est 9h40, bienvenue dans l'instant M.
C'est énorme ce qui s'est passé les chéris.
Vous êtes en direct, allez-y.
L'homme qui se promène sur des courbes, des diagrammes et des camemberts s'attaque ce soir à la place des femmes dans l'économie. Ce soir sur France 2, François Langlais propose un nouveau numéro de Langlaisco, émission dont les mises en scène toujours plus ludiques sont devenues la marque de fabrique. Et il sera question donc des différences de salaire entre hommes et femmes, de la place des femmes à la tête des entreprises ou encore des increvables clichés sexistes omniprésents dans le marketing. Oui, les stéréotypes sur les femmes sont toujours efficaces pour vendre plus, et même à des femmes. L'économie est-elle sexiste ? Vous avez 2 heures.
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter, avec Dorothée Barba.
Le reportage dure un peu moins de 2 heures et il sera suivi d'un débat jusqu'à minuit ce soir sur France 2. Bonjour François Langlais.
Bonjour.
Le visage de l'économie à la télé, c'est vous. Alors je suis presque désolée de vous accueillir dans un décor aussi cheap. Il y a juste une table et 2 micros. Dans l'émission de ce soir, on vous voit mettre un tablier de boucher pour ficeler un rôti, une interview sur un monde charge en mouvement. C'est vraiment effectivement la spécificité de cette émission et vous êtes riche en mise en scène encore ce soir.
Si vous voulez, l'économie a toujours une réputation d'être une matière un petit peu rebutante pour laquelle la barre est haute à sauter, quoi. Donc on essaie d'abaisser cette barre avec justement un rythme, des montages, des mises en scène, des idées qui permettent de comprendre, de rentrer facilement dedans, de raconter l'économie comme une histoire.
C'est rigolo, mais est-ce que ça empêche parfois de se concentrer sur le fond, François Langlais ?
Je pense pas. Je crois qu'au contraire, si les métaphores sont bien choisies, si les mises en scène sont bien choisies, elles servent, elles sertissent le fond, comme on peut sertir une pierre. C'est-à-dire qu'elle l'exalte, au contraire que d'une mise en scène ratée qui, là, peut effectivement l'oblitérer. Mais on fait le pari qu'on a fait les bons choix. Enfin, en tout cas, on s'y est attelé et on y a mis beaucoup de nous-mêmes.
Alors, vous vous promenez, par exemple, ce soir, à l'intérieur d'images d'archives en noir et blanc. C'est très bien fait. Et vous rappelez une date clé, François Langlais. En 1972, la loi française établit le principe de l'égalité des salaires à travail égal. Ça fait quand même 46 ans. Et aujourd'hui ?
C'est pas du tout le cas. On en est très loin. Parce que si vous prenez encore à compétence, à responsabilité, à qualification égale, il subsiste un écart, donc inexplicable, évidemment pas non plus par la durée du temps de travail, un écart de 9,9% entre les hommes et les femmes. Donc 45 ans après cette loi, on en est encore très loin. Et on se rend compte que évidemment il y a les entreprises à mettre en cause, c'est évident. Mais aussi que bien souvent, l'un des ressorts de la persistance de ce truc-là, et ça se joue dans les couples eux-mêmes. Parce que c'est au sein des couples eux-mêmes qu'on prend des décisions qui ne sont pas toujours favorables aux femmes, notamment après une maternité, où c'est plutôt la femme qui s'arrête de travailler, ça va faire une rupture, donc un handicap dans sa carrière, du coup un retard de salaire, etc. Et c'est une espèce de cercle vicieux où les causes, je dirais, sociétales et les causes presque familiales s'entretiennent mutuellement.
Tenez sur cette question de l'égalité des salaires. Vous avez dirigé la direction de la rédaction de BFM Business avant d'être le monsieur économie de France 2. Que pouvez-vous nous dire de l'égalité des salaires entre hommes et femmes dans cette entreprise parmi d'autres ?
Oh écoutez, alors j'en ai pas un souvenir très frais. Je pense que pour le coup c'est une entreprise très jeune, donc il y a pas l'inertie.
Ça se creuse au fil des années, hein, l'inégalité entre les salaires.
Non, puis normalement, si vous voulez, une entreprise jeune démarre sur des bases plus saines. Cela dit, ce qui est vrai malgré tout, c'est que dans cette entreprise-là, comme dans d'autres, comme dans la plupart des autres, malgré tout, les postes de direction sont plutôt occupés par des hommes. J'en étais d'ailleurs l'incarnation. Et en ce sens-là, elle n'était pas exempte de biais. Mais quant à l'égalité des salaires à responsabilité égale, je pense qu'on ne devait pas être très loin si on n'y était pas rigoureusement.
En tout cas, il y a encore du boulot pour la visibilité des femmes au poste de direction à BFM comme ailleurs. Alors, on parlait des mises en scène un peu spectaculaires. Vous entrez ce soir dans une bande dessinée pour interviewer la dessinatrice Emma, celle qui a popularisé la notion de charge mentale. Et dans sa vie professionnelle, elle s'est parfois mise en colère, Emma.
On n'aura pas trop droit à la colère parce que l'agressivité, la colère des femmes, elle est très mal perçue. Elle est perçue comme une perte de contrôle alors que pour les hommes, elle est perçue comme une prise de responsabilité, une forme de charisme. Et ça, c'est difficile quand la moindre des choses qu'on va faire va être un peu analysée sous un angle sexiste.
Voilà, c'est l'aspect très nuancé hein, de cette discrimination à l'égard des femmes dans la perception bien du sûr, comportement des femmes au travail.
Et en fait, on se rend compte que effectivement, il y a un certain nombre d'obstacles qui sont d'ordre réglementaire, de la pratique des institutions, que sont les entreprises notamment. Mais la guerre des sexes, elle se joue aussi beaucoup dans les têtes. C'est-à-dire avec les représentations mentales que nous avons les uns et les autres, les unes et les autres, qui déterminent globalement tout le fonctionnement de l'économie et de la société. En fait, pour répondre à votre question de départ, vous disiez l'économie est-elle sexiste ? Elle est en tout cas très sexuée. Ce qui, en soi, d'ailleurs, n'est pas un problème d'être sexué. Mais d'être sexiste, ça l'est évidemment bien davantage.
Vous venez d'employer l'expression « la guerre des sexes », François Langlais. C'est même le titre de l'émission de ce soir. Est-ce que vous avez conscience que ça va faire hurler les féministes ?
Je sais pas, parce que, si vous voulez, l'économie, c'est des histoires d'argent, de partage, de richesse, de pouvoir. En ce sens-là, il y a un enjeu. Il y a un enjeu.
Oui, mais le combat pour l'égalité entre les sexes, c'est pas une guerre des femmes contre les hommes.
Non. Bien évidemment, en ce sens-là, enfin en tout cas, si c'est une guerre, sur ce chapitre-là, elle est tout à fait justifiée. Mais il y a bien des conflits entre les hommes et les femmes là-dessus. Et en ce sens-là, on peut critiquer la métaphore.
La guerre des sexes, ça suggère, en tout cas, que ce soit que c'est les femmes qui se battent contre les hommes. C'est les femmes qui se battent contre une inégalité qui concerne tout le monde.
Ça concerne tout le monde, mais il y a bien des conflits d'intérêts. Il faut pas l'oublier. Alors pour le coup, c'est le marxiste qui sommeille en moi qui le dit.
Trop ignoré.
Il sommeille profondément, mais vous l'avez réveillé. Et les conflits d'intérêts, ça doit être nommé aussi en tant que tel.
Alors, nombreux sont ceux en France qui vont brandir l'épouvantail américain, depuis l'affaire Weinstein notamment. Attention à ne pas finir comme les États-Unis. Où un homme et une femme ne peuvent plus partager un ascenseur en tête à tête. Vous faites escale ce soir à Washington.
Oui, c'est plus tendu qu'avant. Maintenant, on fait beaucoup plus attention à toutes les conversations au travail. On écoute beaucoup plus attentivement quelqu'un qui fait une remarque déplacée ou déplaisante. On évalue en permanence, est-ce que je dois être offensé ? Est-ce que je dois en parler à la RH ? Donc, à cause du mouvement MeToo, on est tous beaucoup plus sensibles à ces questions et c'est très bien.
Cette femme dirige un cabinet de conseil spécialisé dans les relations au travail entre hommes et femmes, un métier qui existera bientôt en France, François Langlais.
Je sais pas. Alors pour le coup, c'est très américain parce que effectivement, elle enseigne l'étiquette, c'est-à-dire le comportement, pas seulement d'ailleurs entre hommes et femmes, mais notamment entre hommes et femmes, et notamment pour les cadres étrangers qui arrivent aux États-Unis et qui découvrent cette culture.
Attention à pas commettre d'impair.
Exactement. Elle explique notamment qu'il faut toujours se tenir à une longueur de bras. D'une femme à laquelle on parle, qu'il faut évidemment éviter d'être enfermé dans une pièce, un homme et une femme seuls, sans témoin. Enfin bon, il y a tout un tas de recommandations qu'elle donne. Je pense que, bon, il y a des différences de culture quand même entre les États-Unis et l'Europe et que il y a deux éléments aux États-Unis. D'abord, il y a un fond de puritanisme apparent d'ailleurs bien souvent qui probablement complique un peu les rapports entre les hommes et les femmes. Premier point. Et le deuxième, c'est le juridisme. C'est-à-dire que si vous faites une infraction, ça peut vous coûter très cher. On interviewe une Américaine qui est spécialisée dans ces questions, qui explique que la moyenne des dommages et intérêts qu'elle obtient pour les femmes qui estiment avoir, ou qui, pas non seulement qui estiment, mais pour lesquelles la justice a reconnu un préjudice, c'est 100 000 dollars. Donc ça fait 80 000 euros, c'est pas rien. Donc il y a des enjeux très lourds, et ça explique probablement aussi la tension supplémentaire aux États-Unis.
Alors au championnat du monde de l'égalité des genres, selon le classement du Forum économique mondial, la France est à la 11e position. Numéro 1, l'Islande. Numéro 2, la Norvège. Vous avez rencontré la patronne d'une entreprise norvégienne de régulation des tramways.
En moyenne, toutes les 10 filles que j'engage, je dois prendre un homme. Je me suis rendu compte qu'il fallait injecter un peu de testostérone dans l'entreprise pour que les filles se calment un peu. Et vous savez, les hommes qui travaillent dans mon entreprise sont très heureux, car pour chaque homme, il y a 8-9 femmes.
Alors là, c'est passionnant, parce que la Norvège est un pays modèle en matière de lutte contre la discrimination, mais cette dame, la patronne de Traffic Girls, elle emploie des stéréotypes consternant à certains égards, François Langlais.
Sur cet extrait, c'est vrai. Alors bon, quand on a la littéralité de l'ensemble de son interview, on comprend que son projet était beaucoup plus noble que l'extrait qu'on vient d'entendre ne le laisse penser.
On est mauvais esprit, on a pris le passage
non,
le plus percutant.
C'est normal, parce que j'ai eu la même réaction que vous en l'entendant. Je me suis dit, c'est effectivement, pour le coup, des clichés qui sont assez étonnants dans sa bouche, alors que son projet était d'investir un terrain justement où les femmes n'étaient pas jusque-là et au fond de planter un drapeau pour la bonne cause, quoi. Et mais cela dit, je crois que alors elle se débrouille bien. Elle a monté cette entreprise dans un secteur qui n'était jusqu'ici qui était fermé aux femmes, et elle a une croissance tout à fait spectaculaire avec une équipe super active et très sympathique.
Les stéréotypes ont aussi la peau dure en France. Vous rencontrez le patron d'une entreprise du bâtiment qui vous explique que sa boîte se porte bien, notamment parce qu'il a des femmes managers, parce qu'elles sont, je le cite, hein, les femmes sont plus autonomes, plus responsables, et leur intelligence émotionnelle est précieuse pour la boîte. Mmh. On est là dans le domaine du cliché total, et pourtant ce monsieur se bat pour l'égalité entre les hommes et les femmes.
C'est vrai, il le dit là aussi avec les mots d'un homme de sa génération.
Est-ce que c'est pas contre-productif, ces propos-là?
Je me demande, je suis pas sûr, parce que la réalité, c'est quand même ce qu'il fait. Et en l'occurrence, on interviewe aussi, juste après lui ou juste avant lui, une jeune femme qui, tout en étant enceinte, a été promue comme responsable de région. Et dans la plupart des entreprises, le fait qu'elle soit enceinte aurait été un obstacle. Ou à tout le moins, une raison pour différer cette promotion. Et ben là, pas du tout. Bon, il le fait là encore avec des mots qui peuvent étonner. Mais la réalité des choses, c'est que cette fille, cette jeune femme, elle a une trentaine d'années, bah c'est la patronne de plusieurs dizaines de personnes, dont des hommes qui sont sensiblement plus âgés qu'elle. Donc on enfreint à la fois deux règles, hein, c'est-à-dire celle de l'ancienneté. Et puis, justement, on donne à une femme enceinte des responsabilités importantes. Je pense que c'est assez exemplaire.
En Norvège, les pères disposent de 14 semaines de congé parental, 3 mois payés par l'État. Et le résultat, c'est que les femmes sont très présentes dans les conseils d'administration des entreprises. Il y a vraiment un lien de cause à effet entre ces deux éléments?
Non, je pense que c'est deux conséquences de la même cause. Mmh. Et la cause première, c'est que c'est un pays fondamentalement égalitariste. Hein. Pas seulement d'ailleurs entre les sexes, aussi entre les classes sociales. Donc, le congé parental, il faut préciser une chose, paternel, il faut préciser une chose, c'est que c'est un congé paternel obligatoire. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas le céder à sa femme. C'est pas un quota au couple.
Le débat est très présent en France.
Il est très présent.
Ces jours-ci également.
Et du coup, les 3 mois en question, bon, bah, si l'homme ne les prend pas, ils sont perdus. Et on a rencontré pas mal de jeunes hommes qu'on interviewe d'ailleurs, qu'on voit dans les parcs pousser leurs landaus avec des mômes à l'intérieur, discuter. On voit que, enfin, tout s'explique que ça, c'est une période formidable dans leur vie, qu'ils n'ont aucune inquiétude sur le fait de retrouver leur boulot, parce que là aussi, avec les entreprises en Norvège, on est très exigeant. Donc, ça a été un levier important. Sur les quotas, il y a une loi. Hein, une loi qui a imposé 40% de femmes dans les conseils d'administration. Si une entreprise ne le respecte pas, elle est dissoute. C'est pas rien.
L'émission s'appelle l'angle écho. Hein. Un angle, dans le jargon des journalistes, c'est une question précise qui permet d'aborder un sujet de manière plus anglais, plus précise. Et pourtant, le sujet de ce soir, il est très vaste, François Langlais, les hommes et les femmes dans l'économie. Est-ce que ça n'empêche pas parfois d'entrer dans le détail de certains sujets? Je pense par exemple au congé paternité. On aurait aimé entendre peut-être des gens qui s'opposent à ce congé paternité obligatoire et qui expliquent pourquoi, avec des arguments politiques. Est-ce que l'émission évite à tout prix la politique?
Au contraire, je pense que ces arguments-là, cette controverse-là, pour ou contre le congé parental, au moins tel qu'il est défini en Norvège, vous l'entendrez ce soir, mais dans le débat.
Dans le débat qui suit le reportage, voilà. Mais c'est de 11h à minuit.
Oui, mais c'est quand même une heure. Oui. Hein, et donc c'est le temps de la controverse, du débat et de l'exploration des solutions. Je dirais, quand on est en format prime comme ce soir, on réserve à la première partie de soirée les histoires, les reportages. On montre, on fait le constat avec des Français ou des personnes d'autres pays qui témoignent du problème qu'on veut exposer. Et on le traite sous l'angle politique, pas seulement politique, mais notamment politique dans la deuxième partie.
Alors l'émission se termine au poste de contrôle de l'économie mondiale, le FMI, avec Christine Lagarde.
Nous avons par exemple des quotas, des engagements sur certains postes qui s'ouvrent. Je suis à peu près certaine que je vais délibérément recruter une femme. Et forcément que l'homme qui sera évincé alors qu'il avait les qualités pour le poste, il va se dire que c'est injuste. Mais il faut qu'on arrive à faire suffisamment de chemin pour redresser les déséquilibres actuels pour qu'ensuite, on n'ait pas besoin d'avoir un préjugé favorable à qualité et à niveau égal.
Les femmes sont un levier de croissance, hein, dit aussi Christine Lagarde dans ce reportage. Vous parliez tout à l'heure du marxiste qui sommeille en vous. La question de l'idéologie, elle est jamais très loin quand on parle d'économie. Le levier de croissance est-il indispensable? Ça, c'est une question qui est évacuée, hein, dans le reportage, François Langlais.
Oui, alors pour le coup, vous me reprochiez tout à l'heure d'être
un peu large. Non, je ne reproche rien, pose des questions.
Implicitement, vous me disiez, mais finalement, est-ce que c'est pas trop large? Là, vous élargissez encore bien davantage.
Ce serait trop riche que de rentrer dans...
Notre présupposé, disons, pour cette émission, c'est que travailler, donc être intégré dans l'économie de marché, c'est mieux que de ne pas l'être. Et que de rester chez soi à faire la cuisine. Donc, évidemment, c'est un présupposé qu'on peut peut-être pas contester, mais enfin, en tout cas, dont on peut débattre, mais pas dans cette émission-là. C'est vrai que on se place. Le monde meilleur, c'est un monde où hommes et femmes ont les mêmes chances dans l'économie et où ils peuvent, ils et elles peuvent déployer leurs talents de façon identique et sans entrave.
Et puis, l'économie, c'est aussi, bien sûr, la conso. Vous proposez une séquence vraiment saisissante ce soir dans laquelle des cadres d'un hypermarché nous expliquent tranquillement qu'il faut féminiser les rayons.
C'est des offres qui prennent de la place. Là, on n'est pas dans l'optimisation du mètre carré. On est plus dans la mise en ambiance.
Et ça, ça plaît aux clientes, aux femmes?
Ça, ça plaît aux clientes. La clientèle féminine est beaucoup plus sensible à l'esthétisme qu'on va mettre dans la mise en ambiance des produits. Et elle va oser plus qu'un client masculin à venir compléter ses courses alimentaires par des achats liés à la décoration.
Voilà, on installe des salons ou des chambres à coucher dans les supermarchés parce que, paraît-il, c'est plus féminin. Parce que les femmes, pour les professionnels du marketing, François Langlais, ce sont avant tout des responsables des achats.
C'est vrai, c'est vrai. En fait, elles gouvernent un poste de dépense qui est beaucoup plus important que celui de l'homme. Mais sur le fond de votre question, ce qui est intéressant, c'est que pour les gens de marketing, ce qui fait vendre, c'est l'imaginaire. Et l'imaginaire, il est évidemment en partie déterminé par les stéréotypes. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, que toutes ces questions ont une inertie considérable, hein, et qu'elles se transmettent, je dirais, de façon presque invisible ou silencieuse, en tout cas, mais de façon très prégnante, parce que ça pénètre notre cerveau et que ça souligne en creux l'importance, évidemment, de l'éducation, mais même aussi de la publicité. Et alors, dans la même émission, on interviewe une femme qui a monté une agence de pub pour démonter ces stéréotypes et qui présente par exemple une pub où c'est Adam qui mange la pomme et Ève qui dit mais qu'est-ce qu'il fabrique. Et c'est vrai que c'est interpellant, ça justement ça donne à chacun l'occasion de réfléchir sur ces stéréotypes et puis de s'interroger, après tout, est-ce que moi je ne suis pas aussi victime de cela et comment faire pour m'en débarrasser.
Les clichés valent de l'or, hein, sur le plan commercial. Quand on vend un rasoir rose à une femme et un rasoir bleu à un homme, on vend deux fois plus de rasoirs. On sortira jamais.
Peut-être on sortira, mais enfin, en tout cas, il faut d'abord en avoir conscience pour faire évoluer les choses.
Le reportage sera suivi d'un débat, vous le disiez, hein, vous recevez notamment Marlène Schiappa, oui, ainsi qu'un cadre de L'Oréal. On espère que vous parlerez shampoing avec le cadre de L'Oréal.
Je suis pas sûr d'en avoir beaucoup besoin.
Comme mais... avec Édouard Philippe sur le plateau de l'émission politique, la séquence avait fait beaucoup réagir. Merci beaucoup. Merci François Langlais, à voir donc ce soir sur France 2. Très pédagogique, passionnant reportage sur la guerre des sexes, même si l'intitulé parfois peut faire réagir. C'est à 20h55 sur France 2. Très belle journée à vous.
Merci.